Dans la deuxième phase de cette conférence de presse, je signale tout simplement au passage que Monsieur David Gressy est là et pourra répondre à vos éventuelles préoccupations. Tout de suite, sans tarder, veuillez éteindre vos téléphones ou mettez-les sous silencieux. Et pour tous ceux qui, ou celles qui voudraient, qui désirent prendre la parole, levez la main, identifiez-vous ainsi que l'organe que vous représentez. Donc, nous commençons tout de suite ici à Kinshasa par la droite. Une question à droite, une question à gauche avant de rejoindre Goma. Passez le micro, oui.
Merci. Ce venant vous dire ça pour la RTNC. Monsieur Félix, c'est à vous que je m'adresse. Tout à l'heure, le colonel dans l'économie de la situation sécuritaire a révélé qu'il y a eu des attaques perpétrées par les éléments de l'ADEF contre la population de Béni. La question que je me pose, les éléments ADEF se sont-ils rebellés contre le pouvoir de Kinshasa ou de Kampala? Parce qu'on n'a jamais entendu qu'ils ont attaqué en Ouganda, mais ils ne s'attaquent qu'à la population congolaise, notamment celle de Béni. D'où la question de savoir, se sont-ils opposés par rapport au pouvoir de Kinshasa ou au pouvoir de Kampala? Merci.
Très bien, vous l'avez dit vous-même dans votre réponse. L'Alliance des Forces Démocratiques est un groupe rebelle ougandais qui s'est installé depuis une vingtaine d'années ici au nord de la province du Nord Kivu, à savoir vers les montagnes de Rwenzori, et particulièrement dans le territoire de Beni, où, comme vous le savez, ce groupe rebelle exerce beaucoup de violations contre les populations civiles. Vous savez, le mode opératoire qui avait été initialement observé au niveau de ce groupe armé, c'était plutôt des activités liées au kidnapping. Mais comme vous le savez aussi, depuis plus d'une année, aujourd'hui, les FRDC, depuis le 2 janvier 2014, ont lancé une opération contre ce groupe armé qui a été baptisée Sukola 1. Et juste pour rappel, il faut louer au passage le courage de tous ces vaillants soldats FRDC qui ont été soutenus par la MONUSCO, entre autres, et qui ont permis de démanteler tous les bastions qui étaient initialement tenus par ce groupe armé dans le territoire de Béni. Notamment, je vais juste citer quelques bastions, notamment Madina, Makoyoba 1, Makoyoba 2, Mutuanga, Mwenga, Nobili, Kamango, etc. Donc, je disais qu'une fois que ces opérations ont été menées et que la pression militaire a été fortement exercée sur ce groupe armé, ils sont partis un peu en désorganisation, en petits groupuscules. Ce qu'il faut louer, c'est tout ce que les FRDC ont fait pour retirer ceux parmi les otages qui avaient pu être récupérés, parce que il faut signaler qu'ils ont porté tous ces otages à dos d'homme en se frayant un passage à la machette pour pouvoir les amener au niveau de la base de Similiki, où la MONUSCO avait mis une base logistique qui permettait de prendre en compte tout de suite ces gens-là et éventuellement les évacuer par hélicoptère. Donc, c'est un groupe qui est, au début, quand c'était associé c'était l'ADF Nalu, ont eu à mener quelques opérations, des explosions de bombes à Kampala et dans certaines localités de l'Ouganda, mais comme vous l'avez si bien dit, depuis fort longtemps, leurs activités sont limitées à la République démocratique du Congo, où des massacres inouïs, innommables sont commis depuis tout le temps. Donc, je peux dire que il faudra une coalition ou une fédération des efforts, des intelligences, une mutualisation éventuellement des moyens pour continuer à combattre ce groupe armé. Oui, vous avez quelque chose à rajouter, M. Aranaz?
Oui, peut-être je peux ajouter, dans notre rapport présenté le mois de mai sur les violations dans le territoire de Beni par les ADF, on a constaté presque 300 personnes assassinées, des civils assassinés brutalement et de manière systématique par les ADF. Dans les premiers semestres de l'an, on a documenté plus de 100 violations des droits de l'homme avec 278 victimes dans le territoire de la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça qu'on a demandé, dans le cadre de l'arrestation et extradition de Jamil Moulouku à Ouganda, qu'il faut le faire responsable ici pour les crimes commis ici à la République démocratique du Congo.
Merci pour ces éclairages, M. Aranaz. Donc, tout de suite, une deuxième question ici à la gauche, à Kinshasa. Oui, donnez un micro.
Oui, merci, Monsieur Félix. C'est Théodore Gandou, Radio et Télé 7. Radio et Télé 7. Women Rights Watch a, à travers une déclaration, demandé au gouvernement et à la MONUSCO d'extrader ou d'arrêter Sylvestre Mudakumura, le leader des FDLR. Qu'est-ce que la MONUSCO répond à Human Rights Watch par rapport à cette demande?
Merci. Avant peut-être de compléter, je vais peut-être passer la parole à M. Christy. Vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Ah, merci, Félix. Je crois c'est déjà connu que dans notre mandat, on a la possibilité de faire des arrêts des personnes comme celui-là. On va continuer de collaborer avec le gouvernement et si on a la possibilité de faire un tel arrêt avec la collaboration du gouvernement, on est bien prêt de le faire. Donc, ça tombe dans notre mandat. On est prêt, mais le fait qu'on a fait l'appel n'est pas suffisant. On doit avoir aussi l'opportunité et on va poursuivre ça aussi. Félix?
Oui, merci beaucoup. Juste comme l'a si bien rappelé le représentant spécial adjoint, ceci entre dans le cadre de notre mandat tel que conféré par la résolution 2211 qui consiste à apporter tout notre soutien et de contribuer avec les autorités congolaises à l'arrestation de tous ceux qui sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et à ce titre, vous savez très bien que Sylvestre Mudakumura est responsable de plusieurs violations, meurtres, viols. Et c'est à cet effet d'ailleurs que la Cour pénale internationale avait lancé un mandat d'arrêt contre Sylvestre Mudakumura. Toutefois, je pense que peut-être que mon collègue Paul Madidi de la CPI pourra compléter ce concernant justement ce mandat d'arrêt. Mais je peux vous dire deux choses. Un, Sylvestre Mudakumura est à la tête d'un groupe rebelle rwandais qui s'appelle les Forces démocratiques de libération de Rwanda, qui sont au Congo depuis plus d'une vingtaine d'années et qui, de manière récurrente, de manière systématique, de manière quotidienne à la limite, est en train de perpétrer avec ses hommes de sérieuses violations des droits de l'homme. Donc, ce qui fait que son arrestation devient une nécessité impérieuse. Et à ce titre, la République démocratique du Congo, qui est membre signataire du statut de Rome, qui a reçu pour mandat de la CPI d'arrêter Sylvestre Mudakumura, peut compter sur tout le soutien de la MONUSCO pour l'accompagner dans ce processus-là afin de mettre un terme à toutes ces exactions. Mais je signale aussi au passage que Sylvestre Mudakumura est bien retranché dans son bastion et c'est à ce titre que nous ne cessons de faire un plaidoyer pour que la MONUSCO puisse de manière précise, de manière déterminée, de manière engagée, prendre part aux opérations Sokola 2 qui consistent à traquer les rebelles des FDLR. Donc, la MONUSCO est prête à accompagner ce processus et nous partageons les mêmes préoccupations que Human Rights Watch. Nous poursuivons les mêmes objectifs, c'est de mettre fin à l'impunité. Tout de suite, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter, ou Paul Madidi.
Une information pratique, une fiche a été préparée par la CPI à ce sujet et vous sera remise à l'issue de cette conférence de presse.
Oui, monsieur Madidi, si vous avez un ou deux points à rajouter concernant ce mandat d'arrêt.
Merci, Félix. Juste pour rappeler que ce mandat d'arrêt a été émis en 2012 et il est reproché à M. Sylvestre Mudakumura sa responsabilité pénale en tant que co-auteur indirect au sens de l'article 25, donc du statut de Rome, de 9 chefs de crimes de guerre qui auraient été commis entre 2009 et 2010 dans les provinces des Kivu. En République démocratique du Congo, je peux donc donner très rapidement les charges dont il est question, meurtre, mutilation, traitement cruel, torture, atteinte à la dignité de la personne, attaque contre les populations civiles, pillage, viol et destruction des biens. Voilà.
Merci Paul pour toutes ces informations additionnelles. Donc sans tarder, nous allons tout de suite à Goma pour rejoindre Bilame Kasso et prendre quelques questions à Goma. Deux questions à Goma s'il vous plaît. Et je rappelle au passage que Monsieur Daniel Ruiz, le chef de bureau de la MONUSCO de Goma, est dans la salle et pourra éventuellement répondre à certaines de vos préoccupations. Goma, c'est à vous.
Merci Félix. Directement à droite. Inga. Oui, là. Merci. Vous présentez l'organe aussi et vous posez votre question.
Merci Priez. Beaucoup. Je m'appelle Albert Toulinabo du journal Le Peuple et Souverain. Ma question s'adresse à M. José Maria, les droits de l'homme. Monsieur José Maria, quelques hôpitaux que je veux visiter en RD Congo, c'est la menthe suite aux factures accumulées et impayées par votre assureur Energimsi qui couvre les soins des agents locaux de la MONUSCO. Et des sources concordantes et rassurantes nous renseignent qu'il y a un deuxième assureur, Sijna, en remplacement de ce premier. Que pensez-vous, monsieur?
Monsieur Arnaz, est-ce que vous comprenez cette question?
Si vous pouvez la répéter, mais d'une façon plus simple,
oui,
s'il vous plaît.
Oui, soyez un peu plus clair et précis, s'il vous plaît. Alors,
oui. Je disais que de sources concordantes et rassurantes nous enseigne que certains hôpitaux de la RD Congo s'élamentent suite aux factures accumulées et impayées par votre assureur Energimsi qui couvrait les soins des agents locaux de la MONUSCO. Et maintenant, on est en train de les remplacer par Sijna. Que pensez-vous?
Monsieur Arnaz, est-ce que vous avez une idée? Apparemment, c'est un assureur qui a été remplacé par un autre alors que des factures restent impayées. Mais je voudrais juste savoir si c'est des factures liées au bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ou ce sont des factures qui sont dues par la MONUSCO. Soyez plus précis, s'il vous plaît.
J'ai été clair là, j'ai dit ce sont les soins des agents locaux de la MONUSCO.
Ok. Voilà, Daniel.
Oui, peut-être que M. Ruiz pourra intervenir sur cette question.
Oui, j'ai pas toute l'information à ce sujet, mais je suis au courant qu'il y a eu des problèmes avec le paiement de factures. C'est l'assureur du personnel congolais de la MONUSCO où il y a eu certains soucis, mais je ne crois pas que M. Aranaz est au courant de ça. Ça, c'est une question de l'administration. Et si vous êtes intéressé à ce sujet, on peut la prochaine fois ou vendredi amener quelqu'un de l'administration de la MONUSCO qui pourra donner des détails à ce sujet.
Très bien, merci. Une deuxième question à Goma.
Deuxième question, oui, à gauche.
Moi, c'est Jérémy Trump, je suis journaliste à la radio, communauté Taïna Goma. Comment est-elle réglementée votre assurance véhicule? Où vous êtes assuré pour vos véhicules, vos engins de la MONUSCO? Cette question intervient suite à un camion citerne de la MONUSCO qui a écrasé trois personnes qui étaient sur la trottinette de Tchoukoudou, aussi localement appelé, dont le bilan était d'un mort et blessé grave. Bref, qu'en est-il pour la prise en charge de ces blessés? Que sera-t-il l'indemnité de la famille des ministres de l'Israël?
Bon, je peux répondre à ce sujet. Je suis au courant que hier il y a eu ce. C'est dommage qu'il y a eu cet incident. Comme dans tous les accidents dans tout le monde, la partie coupable de l'accident devra payer les dommages de l'autre partie. Je crois qu'à ce moment, il n'a pas été clarifié qui était responsable de l'accident, mais sans doute, en général, je peux vous dire que la MONUSCO paye tous les dommages qu'elle cause quand elle est coupable. Ça, il n'y a aucun souci. Il faudra maintenant que les autorités de police ou judiciaires déterminent qui a été coupable dans l'accident d'hier.
Merci beaucoup, Monsieur Ruiz, pour toutes ces informations-là. Retour tout de suite ici à Kinshasa, où nous prendrons encore deux questions. Nous commençons par la droite. Une question à la droite. Donnez le micro ici, s'il vous plaît.
Merci, Nkiri Maï de l'agence congolaise de presse. monsieur le porte-parole, monsieur le représentant spécial adjoint. Depuis un certain temps, on ne parle plus de la brigade d'intervention rapide qui avait comme tâche de neutraliser tous les groupes armés au nord et au sud Kivu. Est-ce qu'en ce moment, vous avez encore une cartographie de tous ces groupes armés au nord et au sud? Comment cela se présente?
Monsieur Gresti, si vous permettez.
Major Gonçalves, vous avez quelque chose à dire sur cette préoccupation?
Est-ce qu'il peut reprendre la question, s'il vous plaît?
Oui, veuillez reprendre pour le Major Gonçalves.
Oui, je suis M. Nkiremaï de l'Agence congolaise de presse. Je disais que depuis un certain temps, on ne parle plus de la brigade d'intervention rapide qui avait comme tâche de neutraliser les groupes armés au nord et au sud Kivu. Est-ce qu'en ce moment, vous avez une nouvelle cartographie des groupes armés dans cette partie du pays après le travail de la brigade d'intervention rapide?
Merci, monsieur le journaliste. La brigade d'intervention est toujours active et je crois que, pas plus tard que la fois passée, certaines questions ont été posées par rapport à cette brigade, sinon même qu'il y a eu une équipe de journalistes qui ont été filmés sur place les activités de la FAIB. Je ne sais pas si vous avez été informé de cela.
Merci pour
je vous retourne donc la question.
Merci pour cette question. Je vais peut-être rajouter pour dire tout simplement à Monsieur Kéré, un peu de silence s'il vous plaît, juste pour dire à Monsieur Kéré que premièrement, la brigade d'intervention est bien là. Deuxièmement, ce n'est pas la brigade d'intervention rapide, c'est juste la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Troisième point qu'il faudra souligner, la brigade est opérationnelle. Elle est en train de mener toutes les activités qui sont les siennes au nord Kivu, particulièrement au Grand Nord, où, comme vous savez, nous avons aussi bien des troupes tanzaniennes que malawites, mais aussi nous avons renforcé nos effectifs compte tenu de la menace sécuritaire que faisaient peser les ADF sur les populations civiles en déployant des troupes additionnelles du contingent sud-africain. Donc, la mission de cette brigade n'a pas changé, comme vous avez dit, qui avait la mission de neutraliser. Cette mission est toujours d'actualité et c'est à cela que concourent toutes les activités que cette brigade d'intervention mène sur le terrain avec la brigade aussi du Nord Kivu pour apporter un soutien au FRDC, mais aussi et surtout pour protéger les populations civiles qui en ont largement besoin. Merci donc pour ceci. Une deuxième question ici à Kinshasa, à la gauche, s'il vous plaît. Oui, au fond, là-bas, donnez un micro. Au fond. Au fond, oui, oui, donnez.
Alain Mouzi pour la radio de l'Église du Christ au Congo. Monsieur le porte-parole, en ce qui concerne le démembrement des provinces qui est effectif depuis le 11 juillet dernier, est-ce que cela aura une incidence sur la cartographie des opérations des forces de la MONUSCO?
Oui, merci pour cette question. Peut-être que Monsieur Gresti rajoutera ou prendra tout de suite la question et moi je compléterai. Monsieur Gresti, à vous la parole.
À propos du découpage.
Le découpage même n'est pas un facteur en fait de notre déploiement. Ça, c'est lié plutôt à la situation sécuritaire sur le terrain. Du côté police, du côté civil de la MONUSCO, on va bien sûr adapter à cet découpage, mais pour la force, ils vont continuer de travailler dans leur secteur militaire qui correspond aux besoins sécuritaires sur le terrain.
Oui, merci. Juste pour vous dire qu'au sein de la MONUSCO, nous avons cette capacité liée à la flexibilité de réaménager nos dispositifs en tenant compte justement de ce nouveau découpage administratif. Mais encore une fois, c'est une initiative tout à fait souveraine de la République démocratique du Congo de procéder à ce découpage. Donc, nous partons à Goma. À Goma, je pense que nous avons déjà pris deux questions ici. Goma, oui, deux questions à Goma, s'il vous plaît. Billy.
Oui, merci. À droite,
là, oui. Merci beaucoup, c'est Inga Patem de AP.
Ma question s'adresse au représentant spécial adjoint des Nations Unies au Congo. Et si Félix peut la... Monsieur Félix peut la... les compléter, ça serait mieux. Quelle lecture faites-vous de ces sit-ins qui ont terni l'image de la MONUSCO, où la force a été utilisée jusqu'à provoquer l'avortement d'une dame, agent de la MONUSCO? Pouvez-vous engager pour le même poste les nouvelles unités en remplacement des agents qui ont totalisé plus de 10 ans et qui connaissent la politique de la mission? Voilà ma question.
Monsieur Grassi.
Roberta répond d'abord.
Oui. Oui, votre préoccupation, Monsieur Grassi, vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît.
Oui, je vais essayer. Merci bien pour la question. En fait, c'était vrai qu'il y avait des manifestations liées à l'abolition de certains postes. Mais je dois dire, depuis un certain temps, 2 semaines, je crois, on a eu une très bonne discussion avec les représentants du personnel, le personnel national, et je crois qu'on a, on n'a pas encore terminé ces discussions, mais petit à petit, je crois que nous sommes en train de répondre aux besoins, aux préoccupations qui ont été soulevées par les représentants de notre personnel national. Et je crois que ça va demander dans l'avenir un peu plus de transparence dans ce processus. Ça c'est notre engagement avec nos, pas seulement les représentants du personnel, mais aussi avec tout le personnel de la MONUSCO. Donc je crois qu'on peut travailler depuis là dans ce sens. On va essayer de résoudre les problèmes personnels dans une manière transparente, constructive, et je suis content maintenant que on progresse dans cette direction.
Merci, Monsieur Grassi. On retient tout simplement 2 concepts, transparence et approche constructive pour résoudre le problème que vous venez d'évoquer. Toutefois, en passant, je dois tout simplement faire 2 ou 3 précisions. La première, c'est que ce personnel national dont vous parlez fait partie intégrante du personnel des Nations Unies. Et à ce titre, nous avons la responsabilité de prendre en compte leurs préoccupations. La deuxième précision, c'est que il faudra comprendre que même au sein de toutes les familles, qu'elles soient biologiques ou autres, il est normal que des dissensions internes interviennent de temps en temps, mais il faut surtout se féliciter du fait que le contact et le dialogue ne sont pas rompus. Troisième précision, ceci témoigne justement de la vitalité des relations qui existent au sein de cette même famille onusienne, mais aussi traduisent aussi de la possibilité pour les agents de la MONUSCO de mettre sur la table leur divergence, ou en tout cas ce qui pourrait constituer un problème entre eux et l'administration. Mais l'un dans l'autre, comme l'a dit Monsieur Grassi, le contact se poursuit et des échanges fructueux sont en train d'être maintenu pour au plus vite résoudre ce problème au grand bénéfice de tout le monde. Donc merci pour ces éclairages de Monsieur Grassi. Nous restons toujours ici à Kinshasa pour une deuxième question. Oui, à droite là-bas, Roger Marley. Kinshasa. On était à Goma? Ok, excusez-moi, donc on repart à Goma. Oui, une deuxième question à Goma.
Oui, allez-y.
C'est Victor Bigatti pour les comptes du journal Les Deux de l'Est. Je pose toujours ma question à Félix Basse. Quelques pays voisins de la RDC utilisent toujours ces hommes soi-disant opposés à leur gouvernement pour déstabiliser et piller la RDC. Pensez-vous que Djamil Mukulu sera condamné par l'Ouganda?
Merci. D'abord, premièrement, vous n'identifiez pas de manière précise ces pays, ces supposés pays, mais je peux tout simplement vous dire, pour tout ce qui a trait à Jabil Makoulou, je pense que c'est de manière globale que nous exprimons notre satisfaction concernant cette arrestation, parce que je vous ai toujours dit ici que l'un des facteurs fondamentaux, c'est de pouvoir couper la tête du serpent. L'arrestation de Jabil Makoulou est un pas significatif vers toutes les actions qui seront engagées plus tard. Maintenant, je ne peux pas présager du procès qui sera bientôt mis en place pour traduire Jabil Makoulou, mais je pense que ce soit les Nations Unies, que ce soit la République démocratique du Congo ou les autres pays, Jabil Makoulou mérite d'être arrêté et doit payer pour tous les crimes qui continuent d'être perpétrés, particulièrement dans le territoire de Béni par les éléments de l'ADF. Donc c'est ce que je pouvais vous dire. Oui, nous prenons tout de suite une dernière question ici à Kinshasa avant de mettre un terme à cette conférence de presse. Oui, sur la droite, Roger Marley, donnez-lui un micro s'il vous plaît.
Bon, Roger Marley, le Congo. Je commence d'abord par exprimer notre répit, notre indignation face au traitement réservé aux agents de la presse accrédités à la MONUSCO par l'UNFPA. C'était à l'hôtel du fleuve lors de la cérémonie relative à la population.
Je pense que vous n'êtes pas dans une tribune pour vous parler de l'UNFPA. Bon. Nous sommes là à une conférence de presse. S'il vous plaît, posez votre question et vous aurez des réponses.
Donc, alors que nous étions invités, on nous a
rabondi. Je vous en prie, monsieur voilà. Marley, sinon je passe la parole à quelqu'un d'autre.
Bon, comme il y a un représentant de l'UNHCR ici, j'aimerais savoir si tous les réfugiés congolais de la République démocratique du Congo qui avaient été amassés en territoire du Congo-Brazzaville lors des événements malheureux de 2009-2010, lors des conflits à Dongo, Bozene, Gemena, sont tous retournés au Bercail. J'aimerais savoir s'ils sont tous retournés au Bercail.
Oui, quelqu'un du HCR pour répondre à cette préoccupation, s'il vous plaît. Oui, prenez place, oui.
Merci pour la question. Ils ne sont pas tous rentrés, mais il y a 130 000 qu'on a pu rapatrier de 2012 à 2014. Il reste encore 23 000 au Congo-Brazzaville. Et l'option que l'OAC avait envisagée, c'était leur intégration locale. Mais le cadre juridique au Congo-Brazzaville ne permet pas l'intégration locale. Donc nous allons envisager un nouvel accord tripartite avec qui comprend la RDC, le Congo-Brazzaville et le ACR afin de permettre à ces réfugiés de pouvoir rentrer. Voilà ce que je peux dire.
Oui, merci. C'est sur cette note d'espoir que nous mettons fin à cette conférence de presse des Nations Unies. Merci pour les auditeurs de Radio Okapi d'avoir été en notre compagnie. Merci pour tout, vous tous qui avez fait le déplacement pour être en notre compagnie. Merci et à la semaine prochaine.